Donc c'est une valise qui est d'époque, hein, qui a été restaurée. Donc il y a quelques composants à changer parce qu'ils ne vieillissent pas très bien, notamment les condensateurs. Hein. Mais une fois que les condensateurs sont changés, on peut l'utiliser sans problème. Elle date de 1942-43. Voilà, je ne sais pas si vous avez
Quand vous avez parlé de changement des quartz, ça veut dire que le récepteur, en même temps, devait lui aussi changer.
Voilà. Alors, ils avaient des grandes tables où ils savaient que tel opérateur, chaque opérateur partait, par exemple, avec un lot de 10 quartz. Et ils avaient un plan de fréquence. Ils savaient que tel jour, à telle heure, ils utilisaient quel quartz pour commencer. Mmh. Et puis ensuite, il y avait des conventions qui permettaient de dire, je vais utiliser un autre quartz. Et donc, ils avaient plusieurs quartz à leur disposition. Et en Angleterre, ils savaient exactement... quel numéro de quartz correspond à telle fréquence et comment ils les utilisaient. Hein, ouais.
Il y avait aussi des identifications de station.
L'opérateur avait un indicatif de 3 lettres qui changeait tous les jours, qui changeait en fonction des heures. Ouais. Et la station en Angleterre avait également un indicatif de 3 lettres qui changeait. Alors pour brouiller un petit peu les pistes, par exemple, on mettait, si l'indicatif était DCN pour l'opérateur du Vercors le 2 juillet, le 3 juillet, DCN était utilisé par un opérateur en Bretagne. Donc ça compliquait énormément la tâche des services allemands qui ne pouvaient pas suivre un opérateur avec son indicatif parce que l'indicatif changeait régulièrement. La valise se compose d'une partie émission, d'une partie réception, d'une alimentation. Alors l'alimentation pouvait se faire à partir du courant secteur. Donc dans les années 40, c'était soit du 110, soit du 220, soit du continu, soit de l'alternatif. Donc en fait, il admettait tous ces types de courants. Et puis, il pouvait également être alimenté par batterie. Hein, donc, à ce moment-là, on avait une batterie de voiture de 6 volts qui permettait de trafiquer avec le poste en étant dans la nature. Donc, vous l'avez entendu, c'est uniquement la liaison se fait uniquement en télégraphie, en code Morse. Donc, pas du tout en phonie. Hein.
Ouais. Donc, pas en phonie.
Pas avec les valises, pas avec dans le domaine des cas métriques. Hein. Donc, les opérateurs devaient apprendre pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, le Morse. Ils transmettaient les messages par groupe de 5 caractères. Et les messages, par contre, étaient codés. Donc, avant d'envoyer le message, il y avait toute une opération qui consistait à coder les messages pour que les Allemands qui étaient à l'écoute ne puissent pas les comprendre, en fait.
Il y avait du brouillage aussi.
Alors, non, il n'y avait pas de brouillage sur les ondes courtes. Ils brouillaient la BBC, mais ils ne brouillaient pas les émissions des opérateurs. Au contraire, ils les écoutaient, ils les enregistraient, ils essayaient de les localiser. Alors, pour ça, ils avaient un système de radiogoniométrie. Donc, il y avait différents stands de réception en France et en Allemagne. Ils localisaient l'émission en fonction de la puissance du signal. Quand l'antenne était orientée en direction de l'émetteur, le signal était beaucoup plus puissant. Donc, avec 3 récepteurs, 3 stations de réception, on arrive à faire du recoupement et à localiser dans un triangle d'à peu près 20 km l'émetteur. Puis ensuite, ils envoyaient des voitures goniaux sur le terrain qui refaisaient également une recherche par triangulation. Là, on avait un triangle qui faisait à peu près 2 km. Et ils affinaient comme ça jusqu'à trouver l'émetteur clandestin.
Vous venez d'entendre les explications de Didier Clarençon, radio amateur, indicatif F6GNK. C'était le dimanche 24 juillet au musée de la Résistance à Vassieux-en-Vercors. Une journée particulière au musée puisque c'est la première journée résistance de la saison. Le programme est danse, ateliers, visites guidées et conférences s'enchaînent. Chaîne. 17h, rencontre avec Albert Fier. Il a 94 ans, il a été résistant. C'est au travers de ses dessins, après-guerre, qu'il a souhaité transmettre son quotidien ainsi que celui de ses camarades. Scène de vie, scène de résistance, c'est le livre qui vous est présenté à l'occasion de cette rencontre avec Albert Fier.
Je vous remercie vraiment, M. Fier, d'avoir fait le déplacement depuis Cré pour le Vercors, pour que vous puissiez témoigner sans doute, j'imagine aussi, de votre expérience de résistance.
Merci.
Et de votre travail d'artiste après-guerre. Voilà.
Ben moi, je suis très content d'être ici, en souvenir des camarades, parce que je suis là pour ça, hein, c'est pour parler d'eux, c'est pas pour parler de moi. Et puis, bien sûr, de répondre un peu aux questions, ceux qui ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Ça a été quand même dramatique. Et il y a eu un abcès de fixation ici, tout au moins on espérait. Mais le Vercors, c'est quand même 2 départements, il y a le Vercors proprement dit. Une partie fait partie de la Drôme, mais enfin, la résistance n'a pas été tout à fait la même au Vercors ici, avec la Drôme. Nous, on a été périphériques, si vous voulez, et les hasards ont fait que on a trois compagnies qui étaient issues de Cré, qui sont montées vraiment à mi-Vercors, si j'ose dire, puisque nous, on a des camarades qui sont venus jusqu'au col de Vassieux, col de Marignac, etc., au moment où ça allait très très mal. Il faut dire que le Vercors a été créé pour un abcès de fixation qu'avait rêvé l'état-major. État-major, on ne sait jamais, un état-major, disons américain, anglais, français, peut-être réunis, peut-être rejetés, peut-être faisant la guerre les uns les autres. En définitive, on croyait vraiment qu'on serait épaulé, que ce maquis, puisque maquis il y a, ferait une fixation pour les Allemands, alors que le deuxième débarquement se préparait, et que ça serait quelque chose de très embêtant pour eux. En fait, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, parce que les gens disent on a été abandonnés, les autres disent on ne s'est pas compris. Toujours est-il que nous attendions des corps constitués de l'armée, et nous avons eu les Allemands, à tel point que le matin, le 21 au matin, nous étions nous à peu près à Saillant, pas à peu près, nous étions au-dessus de Saillant, et quand on a vu ces avions, on a dit les Amerlots, tu parles, on a pris les lunettes, puis il y avait les croix noires dessus, on a compris tout de suite, c'était les planeurs qui arrivaient traînés par les avions et qui venaient atterrir ici, à Vassieux, au terrain d'aviation qui avait été construit sur ordre, qui avait été construit et qui était terminé. Et l'inauguration n'a pas été faite par des troupes alliées, mais elle a été faite par les Allemands. Alors, j'ai été de vous dire qu'ils n'ont pas fait beaucoup de quartiers sur Vassieux, ça s'est battu. Alors là encore, les gens disent qu'il n'y avait pas assez d'armes, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Mais il est bien certain qu'on fait beaucoup de bruit maintenant, mais on manquait d'armes lourdes. Le mieux qu'on avait, c'était des mitrailleuses. Après le débarquement, on a eu des bazookas, mais enfin, c'était de la plaisanterie à côté de ce que les Allemands pouvaient venir. Et puis, en fait, aussi, on n'était peut-être pas commandés. Il est certain que s'il y avait eu des officiers parachutistes comme tous ceux qui ont fait des guerres subversives, hélas, en Indochine et en Algérie, il est certain que ça ne serait pas passé comme ça. Mais les quelques officiers qui ont pu se trouver ici, dans le Vercors, je dis les quelques officiers, n'étaient pas entraînés pour faire une guerre subversive. Ils avaient, même s'ils avaient passé pour les écoles de guerre, on ne leur apprenait pas ça, on en était encore autant des tranchées, ce n'était pas pareil. Alors qu'évidemment, ceux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, eux savaient ce qu'il fallait faire et comment il fallait combattre. Mais on ne les avait pas. D'autant que dans la partie, même ici, mais moins, dans la partie de Rome, nous avions qui ? Ben, nous avions le brave paysan. Parce qu'on parle beaucoup des Itrans, on parle beaucoup des garçons qui ont fui le STO, c'est vrai, il y en avait beaucoup. Mais il y avait aussi, surtout dans la partie de Rome, il y avait beaucoup de paysans. Tout ça pourquoi ? Parce qu'avant la guerre, on disait, même après la guerre, on disait l'Ardèche, la Drôme, ce sont des départements rouges. Mais qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque ? Ça voulait dire républicain. Or, nos paysans, dont tout le département de la Drôme, et quand jusqu'à dit, même dit jusqu'ici, c'était des gens qui étaient républicains. Beaucoup avaient fait, on n'était pas loin encore, hein, beaucoup avaient fait la guerre de 14-18, et il y a quand même eu aussi, hein, au débarquement, une espèce de levée en masse qui a fait que nos compagnies, par endroits, étaient un petit peu, comment dirais-je, sélectionnées par le type qui les dirigeait. S'il y avait un homme qui avait fait la guerre de 14-18, qui avait groupé autour de lui des gens, ben, il avait des copains qui avaient son âge. Ses copains qui avaient leur âge avaient des copains qui avaient leur âge. Et puis ça descendait peut-être au fils, puis au neveu. Alors on avait beaucoup d'anciens, beaucoup de types qui étaient paysans et qui sont venus nous rejoindre. Alors là, ça a été la campagne, bien sûr, la campagne des Allemands qui, eux, ont compris tout. Ils n'ont pas fait de distinguo. Hein. Drôme-Isère et puis Vercors, c'était des hommes à abattre. Parce qu'on avait un abcès, ils craignaient un abcès dans le dos, puisque au débarquement, ils savaient très bien que ça allait aller très mal. Je parle du débarquement du 15 août, là, du sud. En remontant le sud, ils étaient obligés de passer à côté et risquaient d'avoir des gens qui leur tombaient dessus. Nous, on croyait ça, mais en fait, ça n'a pas été ça. Alors, après, je ne rentrerai pas parce que personne ne peut bien dire les disputes qu'il y a eu. Vous auriez dû venir, vous n'êtes pas venu, vous êtes prêt, vous l'avez, etc. Enfin, toujours est-il que ça a été quand même une semaine tragique, surtout pour les populations ici. Parce que nous, on était dans les compagnies, on faisait la guerre, on sait ce que c'est la guerre, c'est atroce. Au plus tu tues, au plus tu as des décorations. Ça, on le sait, ça c'est le principe eux-mêmes. Mais les paysans ont trinqué parce que aucune force subversive peut vivre sans l'accord des paysans. C'est pas possible parce qu'il faut manger, il faut boire. Alors par conséquent, ils sont automatiquement mouillés dans une affaire comme ça. Et alors, ça a été l'incendie des fermes, ça a été le pillage, ça a été... Puis la haine appelle la haine. Vous trouviez des compagnons dans un état épouvantable. Bon ben, quand vous trouviez des autres, c'était pareil. Alors, ça a été vraiment quelque chose d'atroce, et je vous dis, surtout parce qu'ils ont brûlé les habitations, ils ont brûlé nos ressources vives. Là, ceux qui nous faisaient vivre. Alors, partout, vous serez ici maintenant. Heureusement, tant mieux, c'est mille fois merci. On ne s'en aperçoit plus, mais le Vercors a vraiment été ce qu'on appelle le Vercors. Et puis, la Haute-Drôme ont été vraiment des endroits où il s'est passé des choses affreuses. D'ailleurs, ça s'est passé à Nuremberg. Les troupes qui étaient ici ont été accusées, mises en jugement. Mais vous savez, dans des endroits, peut-être qu'on n'a pas fait mieux. Alors, c'était la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, et puis c'est tout, quoi. Mais vraiment, c'était la première fois qu'il y avait une guerre subversive. Parce que 14-18, ça avait été des hommes qui se battaient entre eux, des armées, mais là, c'est les populations compris. Ça a été tout à fait différent. Des populations engagées, ravitailleurs, et puis, qui ont combattu jusqu'au bout, qui ont payé même quand elles n'avaient pas à payer. Alors, ça a été une raja sur tout le Vercors. Parce que le Vercors que vous voyez aujourd'hui ensoleillé, si vous l'aviez vu le lendemain de tous ces... le lendemain du deuxième débarquement, où ces messieurs sont partis, c'était pas ça, hein, croyez-moi. Puis alors on a eu en même temps, dans les troupes de représailles, mais pas trop ici, surtout dans la Drôme, ce qu'on appelait les troupes mongoles, c'est-à-dire, c'était des prisonniers russes qui avaient, plutôt que d'être prisonniers, avaient choisi de servir l'Allemagne, qui étaient à cheval, habillés en effet gros, bien sûr, les Allemands, troupes de représailles. Ben eux, ils se cassaient pas la tête, ils violaient, ils pillaient, et puis c'est tout. Alors, entre les combattants et eux, c'était pas marrant, croyez-moi. Alors ici, il y a eu des combats quand même difficiles. Et puis je vous dis, c'est ce manque de préparation, c'est pas le courage qui manquait. Mais nous n'avions pas un commandement adéquat, un commandement, même ceux qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient, même il y a des types qui ont été vraiment héroïques, mais ils n'avaient pas la formation qu'ont maintenant les officiers chargés de ce travail, quoi, de combattre les guerres subversives, qui ne sont que ça. Puisque même ce qu'on voit à l'heure actuelle, les bombes, etc., c'est des combats subversifs. Il n'y a pas de doute, nous ce qu'on a fait aussi, quand on pouvait balancer une bombe quelque part, on ne la mettait pas sur conserve, hein, c'était fait pour ça. Ceux qui payaient, payaient. Alors, et maintenant, on est dans la troisième guerre, cette guerre qui est peut-être... qui est subversive, on ne sait jamais si vous êtes un copain, si vous êtes un attaquant. Mais c'était un peu pareil, avec la différence qu'on avait des Allemands qui nous occupaient. Ils n'étaient pas tendres. Voilà un peu ce que je peux vous dire, en gros. Mais ce qui est à retenir, je vous répète, c'est que on a quand même... le Vercors, c'est tout de même. Maintenant, le Vercors, c'est le Vercors, les gens sont... les touristes ne peuvent pas voir ça, mais... le Vercors, à ce moment-là, était quand même divisé en deux. Il y avait la Drôme, qui par paysage depuis... se décline jusqu'à Die, etc., puis la vallée de la Drôme, qui devient vinicole, etc. Le Vercors était peut-être plus typé mentalement que maintenant. Maintenant, le Vercors, c'est tout ça. Pour les gens, c'est tout ça, parce qu'on a tous trinqué en même temps. Les Allemands n'ont pas fait de distinguo entre le vieux Vercors, avec les gens qui se gargarisaient d'être du Vercors, village du Vercors, etc., et les autres. Non, les Allemands attaquaient par toutes les pénétrantes du Vercors, que ce soit par Grenoble, que ce soit par Romans, que ce soit par Cré, que ce soit par Die. Ils ont tous attaqué par là, et ils voulaient anéantir le Vercors, parce qu'on était un abcès qui craignait de les gêner. Voilà. Et je dois vous dire que quand les Américains sont arrivés, on a crié bravo, on a été heureux. Nous, on les a reçus le 19 août à Cré, et je vous garantis qu'on était contents. Alors après, ça a été du velours, si on peut dire. Après, alors, la 19e armée allemande a reculé de Marseille par la vallée du Rhône, et puis là, on s'est un peu régalé quand même, modestement, parce qu'on n'était quand même pas des Américains, modestement, on a aidé, autant que faire se peut, les troupes américaines en faisant des combats sporadiques sur la Nationale 7, etc., ce qui fait que les Allemands ne savaient jamais s'ils passeraient tranquillement ou s'ils auraient des inconvénients. Alors, on a fait tout ce qu'on a pu, et ça a permis quand même à la France d'être présente à Berlin. C'est ce qu'on a cru. Finalement, on a fait ce qu'on a pu. Ce qui est triste, c'est les copains qui sont morts. Des gamins de 20 ans, des vieux aussi, enfin des vieux. Des types de 40, 45 ans, vous voyez, je ne sais même plus que... 94 ans, je suis hors course. Des gens qui ont payé de leur vie, des femmes, des gosses. Voilà, c'est la guerre. Alors, je crois que les hommes sont aussi barbares quand ils sont en guerre, qu'ils soient allemands, polonais, américains ou n'importe quoi. C'est ça la chose atroce. C'est la guerre, c'est pas... C'est les hommes, c'est pas... La guerre, c'est la guerre, mais les hommes, eh ben, ils sont comme ça. Ça fait des millions d'années qu'ils seront comme ça. Je ne sais pas si on arrivera à les redresser. Je ne crois pas beaucoup.